Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Devenir élève, c'est une obligation, mais devenir professeur, c'est un choix. Or, les professeurs, dans le primaire comme dans le secondaire, sont de plus en plus les urgentistes d'une société en crise. Est-il possible de remédier au malaise des professeurs? Pour répondre à cette question, je suis en compagnie d'Agnès Van Zanten. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de l'éducation, directrice de recherche au CNRS. En face de vous, Philippe Mérieux. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2 et spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Alors Philippe Mérieux, comment peut-on être professeur aujourd'hui ?
On prête à Jules Ferry une phrase qu'il a probablement pas prononcée, mais qu'il a pensée suffisamment fort pour qu'on en soit persuadé. Il disait « on devient instituteur parce qu'on aime les enfants et professeur de mathématiques parce qu'on aime les mathématiques ». Alors je sais pas si c'est toujours vrai. Ce qui est vrai, évidemment, c'est ce que vous venez de dire, c'est que le métier de professeur est plutôt mal payé, pas très bien considéré. Les professeurs, même s'ils sont individuellement appréciés par les familles, se sentent collectivement un peu malmenés. Alors je crois qu'on devient professeur surtout parce qu'on a le désir de transmettre et que ce désir nous habite fortement, parce qu'on a soi-même dans son histoire vécu des rencontres fortes et qu'on rêve de reproduire ces rencontres avec des élèves, avec ces moments un peu de grâce où les élèves nous écoutent ou travaillent et comprennent, on sent leur cerveau qui pétille, des choses qui nous tiennent à cœur. Alors tous les professeurs vivent avec, je crois, cet espoir, cette espérance, et puisque ce qui est difficile, c'est qu'après cela, ils rencontrent des situations où ce miracle n'est pas tous les jours au rendez-vous et où le travail quotidien est souvent un travail compliqué, ingrat, difficile, sans reconnaissance même des élèves et des parents. Et je crois que notre société a besoin effectivement de réfléchir sur la place qu'elle donne aux professeurs et à la transmission, parce que c'est la place qu'elle donne à leur avenir.
Agnès Van Zanten, je le disais en introduction, être professeur aujourd'hui, c'est difficile, c'est véritablement un métier qui est en prise avec la crise que traverse notre société. Vous qui êtes sociologue, comment les professeurs vivent-ils aujourd'hui leurs conditions ?
Je pense qu'il ne faut pas parler d'un métier, mais des métiers, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier très éclaté. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans les enquêtes. On dit que ce n'est pas la même chose d'être enseignant en zone d'éducation prioritaire que d'être enseignant en centre-ville. Donc, c'est très difficile de parler de façon globale. Il y a effectivement des enseignants qui doivent faire très vite le deuil d'une vision, d'ailleurs, très idéalisée, qui est encore celle qui est transmise du métier. Et il y a d'autres enseignants qui, effectivement, vont se sentir très vite, très bien, dans un contexte où il n'est pas difficile d'enseigner. Alors, je pense qu'il est très important d'envisager la valorisation du métier à différents niveaux. Il faut, d'un côté, effectivement, une revalorisation salariale, surtout pour les jeunes enseignants. Là, c'est vrai que la France décroche par rapport à beaucoup des pays européens.
Alors, effectivement, on a entendu des chiffres très étonnants. La moitié du salaire d'un enseignant allemand pour un enseignant français dans le primaire, c'est quand même la preuve que notre pays ne considère pas véritablement les enseignants à leur juste valeur, en tout cas que le salaire ne suit pas du tout.
Non, ça c'est sûr que pour le début de carrière, déjà que les conditions sont très difficiles, souvent on est éloigné de son académie d'origine, coupé de sa famille, de ses amis, et en plus on se trouve effectivement dans des conditions matérielles qui sont loin d'être idéales, donc là il faut effectivement investir très fortement. Après par la suite, je pense que c'est un métier dans lequel il y a peu de carrières et peu de possibilités, et qu'aujourd'hui beaucoup des jeunes, quand ils comparent public et privé et d'autres secteurs, se voient très vite dans quelque chose qui est comme un tunnel. Donc là, je pense qu'il faut proposer aussi des opportunités d'ouverture. On l'avait fait dans le rapport qu'on avait dans la commission Pochard-Rocard à laquelle j'avais participé sur la condition enseignante. Il y avait des possibilités d'ouverture des carrières des enseignants. Mais surtout, comme disait Philippe Mérieux, je pense que l'aspect le plus central, c'est donner du sens au métier. Et ce sens aujourd'hui doit venir à la fois d'un discours fort au niveau national, mais aussi d'une autonomie collective des enseignants. Et je dis bien collective parce que je pense que c'est pas l'autonomie individuelle de l'enseignant dans la classe, mais du groupe dans l'établissement qui doit être mis en avant.
Le sens est évidemment essentiel, mais le salaire, ce n'est pas non plus complètement superflu. Alain Juppé, dans le dernier ouvrage qu'il a consacré à l'éducation, Philippe Mérieux propose de revaloriser le salaire des enseignants du primaire de 10%. Il y a eu un certain nombre de promesses à cet égard, et puis les gouvernements successifs ne l'ont pas fait. Est-ce le signe qu'en France, le métier d'enseignant est de plus en plus dévalorisé ?
C'est le signe d'abord qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses. C'est pas un scoop que je vous donne là. C'est le signe aussi que on prend pas suffisamment au sérieux la question de l'éducation. C'est une question qui,
même la gauche.
Oui, même la gauche. C'est une question qui fait la une dans les campagnes électorales et qui ensuite passe quand même très largement au second plan. On la prend au sérieux quand il y a des conflits graves, quand il y a des réformes sur lesquelles tout le monde s'emballe, comme la réforme du collège l'an dernier. Mais en dehors de ça, le quotidien de l'éducation, le quotidien du face-à-face avec les élèves, le quotidien des zones d'éducation prioritaire, c'est un quotidien dans lequel les gens se sentent profondément délaissés. Et puis les enseignants ont le sentiment aussi que le ministère de l'Éducation nationale, ça reste quand même un peu le ministère de la parole, quoi. Ministre après ministre, on annonce, mais les choses changent pas beaucoup sur le terrain. Et Antoine Pro disait récemment que la succession des alternances politiques et des ministres ne contribue pas non plus à permettre de mener à bien un travail en profondeur, de l'évaluer. On a un peu le sentiment que l'éducation est parfois une danseuse. Alors, on comprend qu'il y a des urgences, et l'éducation civique et morale qui est introduite aujourd'hui est de toute évidence une urgence, mais ces urgences sont souvent traitées en termes d'effets d'annonce, parfois précipitées, et souvent, Agnès évoquait l'aspect collectif, souvent peu approprié par des équipes. Et puis, le point fort pour moi, parce que j'ai consacré beaucoup de mon métier à ça, c'est la formation continue des enseignants. On a refondé un peu la formation initiale avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, mais la formation continue aujourd'hui est complètement sinistrée. Il y a très peu de formation continue, elle est très verticale, faite par des inspecteurs. Il n'y a pas véritablement des équipes qu'on accompagne pour travailler, qu'on prend au sérieux. J'ai l'habitude de dire qu'on a un système qui est très... très libéral en réalité, chacun fait à peu près ce qu'il veut, et en même temps très jacobin sur un certain nombre de choses techniques. Il faut qu'un élève de 6e ait toujours le même nombre d'heures, mais en réalité, comment on sélectionne les élèves, comment on prend des contacts avec les familles, comment on éduque véritablement les enfants, tout ça c'est les professeurs qui sont amenés à le faire, et on leur donne peu de possibilités de travailler en équipe, d'innover. On les prend pas véritablement au sérieux comme des acteurs sociaux qu'ils méritent d'être.
Alors on va reprendre ces différents points de la morale à la formation des professeurs, mais tout de même, Philippe Mérieux, vous semblez bien désenchanté.
Non, pas désenchanté, parce que je pense qu'il y a à côté de ça énormément de choses qui bougent. Il y a des collègues qui font un travail absolument exceptionnel, absolument formidable. Je trouve simplement que la lame de fond que nous voyons apparaître aujourd'hui et que malheureusement les tests et les enquêtes internationales confirment, c'est qu'on a un système qui creuse les écarts au lieu de les combler. Et je trouve que...
Bon, enfin, ça, c'est quand même pas une nouveauté.
C'est pas une nouveauté. Agnès connaît mieux que ça, puisqu'elle est sociologue de l'éducation, mais en même temps, il me semble que cela s'aggrave parce que le contexte général favorise quand même très largement les familles qui peuvent compenser les effets toxiques d'un certain nombre d'environnements, qui peuvent avoir des stratégies scolaires de réussite et qui peuvent faire en sorte que leurs enfants soient scolarisés dans de bonnes conditions au détriment des autres.
Agnès Van Zanten, qu'en pensez-vous ? Le système scolaire français est-il un système qui reproduit les classes sociales en l'état, ou bien y a-t-il eu une évolution à cet égard ?
Non, l'évolution malheureusement est plutôt négative. Effectivement, on voit les écarts se creuser dans un système qui croit encore qu'il est égalitaire parce qu'il y a une place significative du secteur public, parce qu'il y a effectivement des programmes nationaux, parce qu'il y a une qualification des enseignants qui est censée être homogène et qui l'est de moins en moins. Mais en fait, les conditions dans les établissements sont très différentes, et aujourd'hui, effectivement, on voit les écarts se creuser entre les établissements scolaires. C'est pas comme par le passé, est-ce qu'on va au collège ou on va pas au collège, c'est à quel collège je vais, parce que les écarts de vraiment ce qui se fait au quotidien dans les établissements sont très grands et conduisent à des parcours extrêmement différenciés. Aujourd'hui, les élèves des milieux populaires ne sont pas seulement défavorisés par leur milieu d'origine, comme on le répète souvent, mais par l'établissement qu'ils fréquentent. Donc c'est la double peine pour eux très souvent, parce que selon que l'on fréquente un lycée des centres-villes ou un lycée défavorisé des banlieues, les chances d'accéder à l'enseignement supérieur sont beaucoup plus grandes ou beaucoup plus faibles, et les carrières que l'on va voir par la suite très différentes.
Et peut-on dire, Agnès Van Zanten, qu'à cet égard, il y a eu une dégradation ?
Oui, il y a une dégradation parce qu'en fait, on laisse faire et que le système produit des inégalités qui sont le produit, comme le rappelait Philippe Mérieux, des stratégies des familles, mais pas seulement, parce que le système scolaire tend à renvoyer la faute, la responsabilité aux familles. C'est aussi la responsabilité des établissements scolaires, des stratégies qu'ils développent à l'intérieur, options, filières, pour attirer les familles. Et c'est aussi la responsabilité de l'administration de l'éducation nationale à ces différents échelons. Et le regard qu'elle porte sur le fonctionnement des établissements, sa capacité d'intervention dans ce que font véritablement au quotidien des établissements. Donc oui, les écarts se creusent, c'est préoccupant.
Mais pourtant, il y a eu tout d'abord un constat qui est très ancien à cet égard. Ensuite, il y a eu différentes tentatives de sélectionner autrement les élèves, de revoir le sens même du verbe sélectionner. Agnès Van Zanten, pourquoi tous ces efforts n'ont-ils pas porté leurs fruits ?
Je crois que d'une part, il y a les valeurs et l'idée dans le système éducatif français que l'égalité, c'est de porter tous les enfants les plus loin possible. Comme cet idéal apparaît de plus en plus éloigné de la réalité, en fait, beaucoup d'enseignants aujourd'hui se satisfont de porter quelques-uns, très très peu, aussi loin qu'ils le peuvent. Et en fait, il n'y a pas l'idée d'une responsabilité collective à l'égard de tous les enfants et de porter la majorité des enfants vers un niveau qui soit un niveau aujourd'hui, c'est lui qui correspond à une société comme la société française. Et donc, l'idée, c'est qu'on est responsable vis-à-vis des quelques élèves qui s'investissent dans la scolarité. Par ailleurs, comme je le disais, le problème est celui d'un système dans lequel on instaure des réformes, parfois des réformes qui vont tout à fait dans le bon sens, mais on constate, quand on est enquêteur, quand on va sur le terrain, qu'on s'occupe très peu de la mise en œuvre des réformes. Je ne parle même pas de l'évaluation, parce qu'avant de s'occuper d'évaluation, il faut voir si les réformes ont été mises en place et comment.
Mais c'est tout de même une pierre dans votre jardin, Philippe Mérieux, dans celui des pédagogues. Il y a eu un certain nombre d'études de fait avec des préconisations et on ne voit toujours rien venir. Le constat que dresse Agnès Van Zanten est plutôt sombre.
Oui, je partage assez largement ce constat. La ministre a évoqué il y a quelques mois des pistes qui me paraissent intéressantes, mais qui peinent à se concrétiser. Je pense à l'idée qu'elle a formulée de proportionner les dotations aux établissements, écoles, collèges, lycées, à l'origine sociale des élèves et à leurs véritables difficultés. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, où on arrose un peu là où c'est mouillé, en donnant des moyens à ceux qui en ont déjà. Alors je sais bien qu'on me dira en ZEP, il y a quelques postes supplémentaires, un peu de décharge. Oui, mais en ZEP, il y a les jeunes professeurs débutants, en ZEP, il y a des contractuels, en ZEP, il y a des non-titulaires, et les professeurs un peu aguerris sont, comme le disait Agnès, dans les lycées de centre-ville. Alors, les pédagogues, bien sûr, eux, leur souci, c'est de proposer un certain nombre d'idées, mais c'est pas des idées terriblement nouvelles, hein. L'éducation nouvelle, ça, le congrès de fondateurs, ça date de 1921, c'est pas d'hier, autour de comment faire pour passer de la démocratisation de l'accès, on a démocratisé l'accès au collège, à la démocratisation de la réussite, pour que tous les élèves aient envie d'apprendre, voilà. Alors, pour que tous les élèves aient envie d'apprendre, eh bien, il faut prendre en charge un certain nombre de choses. Moi, j'entends souvent dire, ces élèves échouent parce qu'ils sont pas motivés. Mais enfin, la motivation, c'est pas un préalable à l'école. La motivation, c'est un objectif de l'école. Si on écrit sur le fronton de toutes les écoles primaires, à la place de liberté, égalité, fraternité, nul n'entre ici s'il n'est déjà motivé, bah évidemment, on n'aura pas de mal à faire réussir les élèves motivés. Et donc, il y a là une responsabilité pédagogique et je parle, moi, volontiers d'une amnésie pédagogique parce que j'ai peur que toute une série de travaux pédagogiques ait été oubliée depuis quelques années.
Ce sont tout de même des mots très durs que vous prononcez tous les deux. On va vous retrouver à 8h15, rejoint par le philosophe François-Xavier Bellamy, pour voir dans quelle mesure les réformes en cours, notamment la réforme du collège, peuvent ou non améliorer la situation. Mais dans l'immédiat, il est 7h55 sur France Culture.